ceux qui sont là pour la première fois, qui ne s'inquiètent pas, je dirais, du message qui va être donné aujourd'hui, qui est en fait tout simplement le quatrième d'une série de quatre. Voilà, parce qu'en fait, il annonce des choses difficiles parfois à entendre et qu'on ne prêche pas souvent. C'est bizarre que ça tombe la fête des mères, mais bon, c'est intéressant quand même, puisque c'est la parole de Dieu. L'histoire a eu un commencement, et tous les scientifiques sont d'accord pour nous dire qu'elle aura une fin. Pour nous, cela n'est pas réellement une nouveauté. La Genèse et l'Apocalypse nous décrivent déjà cela depuis longtemps. Beaucoup d'auteurs bibliques en ont d'ailleurs parlé. Et notamment, celui qui fait l'objet de la série, c'est-à-dire Joël. Mais que va-t-il se passer à la fin de l'histoire de l'humanité? Joël nous offre, dans ce chapitre, le troisième ou le quatrième, suivant les versions, un tableau magnifique de cette histoire. Je vous invite à me suivre dans le dernier épisode de l'histoire de l'humanité, la période de la fin des temps. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans Joël 4, chapitre 1 à 21, ou dans d'autres versions, chapitre 3, verset 1 à 21. Nous allons tout au long de... Puisque le passage est assez long, nous allons beaucoup s'y référer, donc je vous invite vraiment à garder vos Bibles ouvertes sur ce chapitre. Joël 4, verset 1 à 21. Joël 4, 1 à 21. Voici en ces jours-là, en ce temps-là, lorsque je changerai le sort de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai tous les peuples, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, ou aussi la vallée du jugement en hébreu. Alors là, j'entrerai en jugement contre eux au sujet de mon peuple, celui qui m'appartient, Israël, qu'ils ont dispersé au milieu des nations, et au sujet de mon pays qu'ils se sont partagés. Ils se sont partagés en les tirant au sort les captifs de mon peuple. Ils ont troqué l'enfant contre une courtisane. Ils ont vendu les filles pour du vin et ils ont bu. Et vous, Tyr et Sidon, et tous les districts philistins, quelles sont donc vos prétentions à mon égard? Voulez-vous vous venger sur moi et vous en prendre à moi? Bien vite, promptement, je ferai retomber sur vous tous vos agissements. Vous avez dérobé mon argent et mon or, vous avez pris tous mes objets précieux pour les emporter dans vos temples, et vous avez vendu les Judéens, les Jérusalémites, aux Ioniens pour qu'ils soient éloignés de leur pays. Eh bien moi, je vais les revigorer pour qu'ils quittent le lieu où vous les avez vendus. Je ferai retomber sur vous tous vos agissements. Je livrerai votre population aux Judéens qui les vendront aux Sabéens, cette nation lointaine. C'est l'Éternel qui le déclare. Proclamez ceci aux nations, appelez à la guerre et mobilisez les guerriers. Oui, que tous les soldats partent en guerre et montent au combat. De vos phoques, forgez des épées et de vos faucilles, des lances. Que le plus faible clame, moi je suis un héros. Hâtez-vous et venez, vous tous les peuples de partout, rassemblez-vous. Ô Éternel, toi, fais descendre tes guerriers aussi. Que les nations se lèvent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat, car c'est là que je siégerai pour juger toutes les nations de partout. Brandissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein et les cuves débordent, car grande est leur méchanceté. Oh, quelle foule dans le val du verdict. Le jour de l'Éternel est proche dans le val du verdict. Le soleil et la lune sont obscurcis et les astres perdent leur éclat. Il rugit l'Éternel à partir de Sion et de Jérusalem, il donne de la voix et le ciel et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Il est une retraite pour les Israélites. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu qui réside en Sion, mon saint mont. Jérusalem sera un sanctuaire et plus jamais les étrangers n'y passeront. Alors, en ces jours-là, le vin nouveau coulera des montagnes et les coteaux ruisselleront de lait. Dans tous les torrents de Juda, l'eau coulera et du temple de l'Éternel jaillira une source et elle arrosera le val des Acacias. L'Égypte deviendra une désolation et Édom un désert à cause des violences qu'ils ont commises contre les Judéens dont ils ont répandu le sang dans leur pays alors qu'ils étaient innocents. Quant à Juda, il sera toujours habité. Jérusalem le sera d'âge en âge. Je leur pardonne, eux dont le sang a été répandu et auxquels je n'avais pas pardonné. L'Éternel habitera en Sion. Ce dernier épisode de l'histoire de l'humanité se déroule en deux actes. La fin de l'histoire est marquée par un procès dont Dieu est le juge. À la fois le juge qui prononce la sentence, mais aussi celui qui instruit le dossier. Comme dans les procès français, la procédure d'instruction d'une affaire criminelle est réalisée à charge et à décharge. Cela signifie que le juge qui est chargé d'instruire le dossier criminel identifie tous les faits qui seraient de nature à condamner l'accusé. Pour cela, on indique qu'il instruit à charge le dossier. Mais il est également obligé d'instruire à décharge, c'est-à-dire de relever tous les faits qui seraient de nature à procéder à un non-lieu, c'est-à-dire à procéder à l'acquittement. Dans ce dernier épisode de l'histoire de l'humanité, Dieu est ce juge d'instruction. Il instruit à charge et à décharge contre tous les hommes de toutes les époques, de toutes les races, de toutes les langues. Nous verrons dans une première partie l'instruction à charge contre l'humanité et les nations notamment. Nous sommes en face du plus grand procès de l'histoire de l'humanité. Le procès de DSK à côté, c'est tout simplement de la rigolade. Le peuple de Dieu est au centre du problème. Verset 2. Alors, là, j'entrerai en jugement contre eux au sujet de mon peuple, celui qui m'appartient, Israël. L'Éternel appelle à la barre toutes les nations et tous les peuples. Ces nations représentent toutes les personnes qui se sont opposées à lui. Comme nous l'avons vu la dernière fois au chapitre 3, ces nations sont composées de toutes les personnes qui n'ont pas jugé bon de l'invoquer et d'être sauvées. Les nations, dans le contexte de l'époque, étaient les peuples qui vivaient autour de Juda et d'Israël. L'objet de l'accusation de ces nations est qu'ils ont fait du tort à Israël, au peuple de Dieu. Le procès que Dieu intente touche les nations à cause de leurs crimes envers son peuple. On voit les pronoms « mon » soulignent que les torts accumulés envers le peuple de Dieu sont autant de torts envers Dieu lui-même. Le Seigneur ne se lasse pas de s'identifier à son peuple comme un père à son fils. C'est une marque de son amour immense. Les chefs d'accusation sont lourds. La méchanceté des nations et leurs crimes sont décrites avec précision. Les chefs d'accusation sont les suivants, la déportation et le vol de territoire. Pour comprendre, c'est l'Éternel qui allouait à chaque peuple son territoire et en fixait les frontières, non seulement pour Israël, mais aussi pour les autres peuples, Deutéronome 2. Les nations sont donc fautives envers Dieu également et ont lésé l'Éternel. L'Éternel se porte donc non seulement en juge, mais en partie civile, en même temps. Mais ce n'est pas tout, les crimes sont terribles, car ils touchent des personnes humaines. Le texte nous dit, ils ont vendu des garçons pour pouvoir se payer des prostituées. Ils ont vendu des filles pour se payer du vin. Ces enfants ont été sacrifiés à quelques moments de plaisir et de débauche. On sent l'horreur et nous sommes obligés d'être horrifiés. Si ce matin, je vous montrais des images de cette scène, nous ne pourrions regarder jusqu'au bout. Mais ce n'est pas tout. Les filles ont été vendues pour un peu de vin, un instant de jouissance. Les ennemis du peuple semblent avoir emmené ces enfants que pour le plaisir d'assouvir leur instinct de violence et de brutalité, ou par volonté d'humilier et de faire souffrir pour se débarrasser au plus vite de leur victime, dont ils n'avaient que faire. Pour ne pas rester dans l'abstrait, Joël réalise un gros plan sur deux nations, représentées par deux villes, Tyr et Sidon, qui sont passibles du jugement. Ces peuples sont pris comme exemple représentatif de l'ensemble des nations. Le prophète ouvre pour nous la porte de la salle d'audience. Le procès est déjà entamé. Les accusés protestent comme s'ils avaient de justes raisons de s'attaquer à Dieu. Pourtant, deux chefs d'accusation sont identifiés, versets 5 et 6. Vous avez dérobé mon argent et mon or. Vous avez pris tous mes objets précieux pour les emporter dans vos temples. Vous avez vendu les Judéens, les Jérusalémites, aux Ioniens pour qu'ils soient éloignés de leur pays. Le vol des biens du Seigneur et la traite des Israélites. En dépossédant les Judéens, c'est le Seigneur lui-même que les deux peuples ont dépossédé. Ils ont déposé leur butin dans le temple, nous dit le texte, de leurs idoles. L'honneur du Seigneur est bafoué. Le trafic d'esclaves a toujours été lucratif et l'Éternel s'élève depuis le début contre les atteintes à la personne humaine, contre toute forme d'oppression et d'exploitation de l'homme qui est l'image de Dieu. Ils ont éloigné les Judéens de leur territoire et cela a servi également à priver les Judéens de leur Dieu qui résidait à Jérusalem dans le temple. Devant ces crimes, nous attendons réparation et que justice soit faite. Il en est de même pour tous les chrétiens qui sont persécutés pour leur foi dans le monde. Parfois, ils sont victimes des pires discriminations. Ils soupirent après un jour où justice sera faite et où leur Dieu rétablira enfin la justice. Eh bien, Dieu ne tarde pas à appliquer la sentence que méritent ses actions. La sentence, elle est là, au verset 7 et 8. Eh bien, moi, je vais les revigorer pour qu'ils quittent le lieu où vous les avez vendus. Je ferai retomber sur vous tous vos agissements. Je livrerai votre population aux Judéens qui les vendront aux Sabéens, cette nation lointaine. C'est l'Éternel qui le déclare. Joël, qui a écrit l'oracle de la part de Dieu, prend le soin de préciser que c'est le Seigneur qui le déclare. Ce n'est pas lui, Joël, un éventuel nationaliste assoiffé de vengeance, non. C'est le juste juge qui le déclare. Mais comment Dieu exerce son jugement? Les prophètes sanctionnent le peuple de Dieu par la transgression de l'alliance qu'ils avaient faite avec l'Éternel. Alors que là, les nations sont sanctionnées sur la base d'une autre loi, celle du talion. En effet, Dieu fait retomber sur leur agissement. En d'autres termes, ceux qui ont fait de mauvais finissent par leur arriver. C'est la loi du « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on fasse ». Devant cette sentence, les peuples se révoltent. Versets 9 à 13. « Proclamez ceci aux nations, appelez à la guerre et mobilisez les guerriers. Oui, que tous les soldats partent en guerre et montent au combat. De vos socs forgés des épées et de vos faucilles des lances, que le plus faible clame, moi je suis un héros. Hâtez-vous et venez-vous tous les peuples de partout. Rassemblez-vous. Ô Éternel, fais descendre tes guerriers. Que une nation se lève et qu'elle monte à la vallée de Josaphat, car c'est là que je siégerai pour juger toutes les nations de partout. Brandissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein et les cuves débordent, car grande est la méchanceté et leur méchanceté. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai lu ce passage, je me suis cru en plein milieu du Seigneur des Anneaux, ou dans certaines scènes où l'on voit les armées humaines se préparer à combattre contre les armées du Mordor. Le rassemblement est marqué par la préparation à la guerre. Joël décrit une mobilisation énorme des nations contre l'Éternel. Quand Dieu, dans le chapitre 2, avait jugé son peuple, le peuple s'était repenti et Dieu avait changé son attitude et avait couvert le peuple de la bénédiction. Pourtant, devant l'annonce du jugement de l'Éternel, les nations, au lieu de se repentir, se rassemblent pour affronter l'Éternel. Tout est utile en cette guerre. La stratégie est bien présente. On prépare, on mobilise les guerriers pour le combat. Les nations mobilisent leurs troupes. Les nations cherchent à contrecarrer l'œuvre du Seigneur en levant une immense armée. puis c'est le départ des soldats. Bizarrement, le peuple de Dieu n'est pas présent dans ce combat. Il n'apparaît pas sur le champ de bataille. L'intensité de la révolte est à son comble. Il manque d'armes et il faut compléter les épées par des outils agricoles. Toutes les ressources sont mises à contribution contre le Seigneur. Les nations se coalisent. L'union se fait dans la révolte contre le Seigneur. Ce rassemblement converge vers un lieu que l'Éternel a choisi pour le jugement. Au lieu du rassemblement, l'Éternel siège, on pourrait dire, tranquillement, par contraste avec les nations. L'absence de description du combat et la transformation du champ de bataille en cour d'assises, la vallée du verdict, rappellent avec force que l'Éternel remporte la victoire par sa parole. La parole du juge qui prononce la sentence de condamnation contre les coupables est étroitement liée à l'épée qui exécute cette sentence. La parole sans l'épée qui fait exécuter la sentence est inefficace, et l'épée sans la parole est injuste. L'Éternel possède les deux. La moisson est mûre, nous dit le texte. La méchanceté des nations a atteint son comble. Le jugement ne peut donc arriver. Le jour de l'Éternel est donc décrit par Joël comme le jugement des peuples qui n'auront pas voulu de Dieu et qui se seront révoltés contre lui. Celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Aujourd'hui, la situation est identique. Vous devez et nous devons choisir. Soit continuer à vivre de manière indépendante en tournant le dos à Dieu pour lui dire que nous n'avons rien à faire de lui et que nous souhaitons vivre notre vie comme nous l'entendons. Soit devenir son enfant, ses enfants, par une repentance sincère qui fait de nous son enfant et donc qui nous incorpore à son peuple. C'est à nous de choisir encore une fois. Toutefois, Dieu ne se limite pas à une condamnation généralisée de toute l'humanité, non. Il a également instruit à décharge en faveur de ceux qui font partie de son peuple. Je vous invite à lire le verset 16 et 17 avec moi. Il rugit l'Éternel à partir de Sion et de Jérusalem. Il donne de la voix et le ciel et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Il est une retraite pour les Israélites. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui réside en Sion, mon saint mont. Jérusalem sera un sanctuaire. Et plus jamais les étrangers n'y passeront. Mais ce jour de l'Éternel, qui marque le jugement des nations, marque aussi un autre fait, tout aussi grandiose. Le mai introduit une autre issue pour d'autres personnes. Il oppose clairement le sort et la sentence des nations à la sentence du peuple de Dieu. Dieu le juge instruit à décharge son peuple. Le peuple trouvera en l'Éternel un refuge et une protection. Ce refuge est pleinement nécessaire dans la mesure où la colère et le jugement de Dieu se déversent contre toute l'humanité. L'Éternel nous avait dit qu'il sauverait ce qu'il invoque au chapitre 3. L'Éternel nous montre aussi qu'il sera un refuge pour son peuple au jour du grand procès de l'humanité. Cette espérance est magnifique car elle nous permet d'endurer l'injustice présente, la souffrance et toute l'opposition. Non comme un opium qui vous fait délirer et qui vous amène loin de la réalité, non. Cette espérance vous permet d'avoir une ancre solide pour notre foi en Dieu et en Jésus-Christ. Dieu n'abandonnera jamais son peuple, il sera toujours un refuge pour lui. Parfois dans nos vies, il pourrait nous sembler que Dieu est parti, car nous avons perdu un proche, peut-être un de nos parents, ou un être qui comptait pour nous. Également, la vie peut être terrible quand elle nous afflige de maux immenses, comme des maladies physiques, psychologiques. En cela, nous pouvons demander à Dieu, mais où tu es dans la souffrance? Où tu es dans notre souffrance? Devant cela, Dieu ne nous interdit pas de crier à lui, bien au contraire. Pourtant, quand Dieu ne semble plus là, au fond de nos détresses, une espérance est bien là, réelle. Il est et restera toujours notre refuge. Pour cela, j'aimerais vous raconter ce poème, cette dame qui a écrit la chose suivante. Une nuit, je fis un rêve. Je marchais sur la plage avec mon Seigneur. sur le fil noir des épisodes de ma vie, furent projetés comme sur un immense écran. Sur le sable, je voyais à chaque fois deux traces de pas, les miens et ceux de mon Seigneur. Après la dernière fin de ma vie, je fus surpris de voir par endroits les traces d'une seule personne. Je me rendis compte que je traversais alors les moments les plus difficiles et les plus terribles de ma vie. Inquiète, je demandais au Seigneur, le jour où j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que je marcherais, que tu marcherais toujours avec moi. Mais je découvre maintenant qu'au pire moment de ma vie, il y a les empreintes d'une seule personne. Pourquoi m'as-tu abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi? Il me répondit, mon enfant chéri, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais. Surtout pas lorsque tu passes par l'épreuve, là où une seule personne a marqué le sable de ses pas. C'était moi qui te portais. Dans nos souffrances, nos luttes, le Seigneur n'est pas absent. Au contraire, il nous porte. En opposition au jugement des nations, le peuple de Dieu est épargné, acquitté. Mais pour quelle raison? Verset 17, je vous invite à suivre au verset 17. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui réside en Sion. Mon saint mont, Jérusalem sera un sanctuaire. Et plus jamais les étrangers n'y passeront. Une fois de plus, l'histoire se révèle. Elle révèle l'Éternel. L'habitation du Seigneur est en Sion. Sion est le lieu qu'il a choisi pour y demeurer. Dans l'Ancien Testament, Dieu était présent au milieu de son peuple. Toutefois, celui-ci ne pouvait avoir accès directement à lui. La sainteté qui était associée au temple va se diffuser, nous dit le texte, à travers toute la ville de Jérusalem. Jérusalem deviendra sainte. Ce fait est hallucinant. Comme dans le chapitre 3, le Saint-Esprit, réservé sous l'Ancienne Alliance à quelques-uns parmi le peuple, est répandu sur tous les membres du peuple de Dieu. C'est peut-être la première fois que ce thème est envisagé dans l'Alliance, dans l'Ancien Testament. Dire Jérusalem sainte ou sanctuaire, c'est la considérer tout entière comme demeure du Seigneur. Et cela pour qu'en conséquence, elle interdise l'accès à tout étranger, à tous ceux qui n'appartiennent pas à ce peuple saint. Cette prophétie s'est déjà réalisée lors de la Pentecôte. Le Seigneur séparera par conséquence les destinées de son peuple que les chrétiens sont et les destinées des autres. Non, Joël a le regret de dire à Paul Naref, non, nous n'irons pas tous au paradis. En effet, le paradis est rempli de la présence et l'accès n'y est pas possible pour ceux qui ne sont pas saints, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit pour être sanctifiés et purifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. L'enfer est une réalité. Elle se caractérise par l'absence de la présence de Dieu. Ceux qui seront considérés comme étrangers iront donc en enfer. C'est tout simplement l'exercice de la justice. Nous n'accepterions pas qu'un homme qui vient de violer notre fils ou notre fille soit relâché et ne soit pas jugé pour ses actes horribles. Eh bien, c'est pareil pour Dieu. Dieu ne peut laisser impunis les hommes qui auront souhaité vivre en indépendance par rapport à lui. Versets 18 à 20. Alors en ces jours-là, le vin nouveau coulera des montagnes et les coteaux ruisselleront du lait dans tous les torrents de Juda. L'eau coulera et du temple de l'Éternel jaillira une source. Elle arrosera le val des Acacias. L'Égypte deviendra une désolation et Édom un désert à cause des violences qu'ils ont commises contre les Judéens. L'Égypte, dont ils ont répandu le sang dans leur pays alors qu'ils étaient innocents. Quant à Juda, il sera toujours habité. Jérusalem le sera d'âge en âge. Dieu le promet à son peuple. Dieu promet à son peuple le paradis. Encore une fois, la source de toutes ces bénédictions est le temple où le Seigneur est présent. La source où la rivière qui jaillit du temple est donc celle qui jaillit aussi de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit. Dans tout cela, nous sommes obligés de nous rappeler que ces bienfaits découlent de la présence du Seigneur à Jérusalem. Joël retourne au jugement des nations et y ajoute encore une fois la cause de ce jugement, la violence. On ne peut plus oublier, on ne peut pas oublier que cette violence des nations, c'est comme concentrer tout entière en un point de l'histoire, contre celui qui est Israël, par excellence, pour verser le sang du seul véritable innocent sur une croix, Jésus-Christ. Cela ne peut être laissé impuni. Je leur pardonne, verset 1, eux dont le sang a été répandu et auxquels je n'avais pas pardonné. L'Éternel habitera en Sion. Joël conclut une nouvelle fois par la déclaration de salut du peuple de Dieu. Seuls ceux qui ont été purifiés du mal qui les entachaient ont droit de citer dans la Jérusalem et avec le Seigneur. Joël termine par la plus grande bénédiction de l'histoire de l'humanité. Cette bénédiction est la présence même de Dieu. En Jésus-Christ, le Seigneur a accompli sa promesse, car en Jésus-Christ, Dieu est venu habiter parmi les siens. En Jésus-Christ, Dieu se tient avec les siens, au milieu d'eux. En Jésus-Christ et par l'Esprit, Dieu est venu à nous, à partir de la Pentecôte, et il a fait de chaque croyant, ainsi que de l'Église, son temple, sa demeure. Le jour de l'Éternel est donc déjà arrivé, quand Jésus est venu sur la terre et qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Cela s'est déjà donc produit, mais nous attendons aussi le jour où nous le verrons face à face, c'est-à-dire où nous jouirons d'une relation plus directe avec lui dans la cité, dans le temple, l'Éternel. La cité où se tient le trône du Seigneur, où ses serviteurs verront sa face et lui rendront un culte à la lumière divine répandue sur eux. Cette cité est la demeure de Dieu avec les hommes et il y habitera avec eux. Déjà nous nous en sommes approchés, nous dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 22. Mais pourtant, nous l'attendons encore. Joël nous a décrit le dernier épisode de l'histoire de l'humanité. Et ce dernier épisode voit la description du plus grand procès de l'histoire. Dieu est le juge, à la fois qui instruit et qui rend le jugement. Pour les uns, l'instruction amène à la condamnation, c'est-à-dire à l'exclusion du peuple, l'exclusion de la présence de Dieu. Pour les autres, l'instruction amène à l'acquittement par la purification issue de l'œuvre du Saint-Esprit. Les uns concentrent tous leurs efforts pour lutter avec Dieu, tandis que les autres concentrent tous leurs efforts pour s'accrocher aux promesses que Dieu leur a faites, à savoir que Dieu serait leur refuge, même en ce temps de procès. Un premier épisode de la fin a commencé quand Jésus est venu sur la terre et qu'il nous a envoyé son esprit. Ce fait déjà est là, est passé. Pourtant, un autre épisode vient également. Celui-là, au contraire, n'est pas encore arrivé. Il est marqué par la venue de Jésus pour juger de manière définitive et complète l'humanité. Le paradis et l'enfer seront au bout de ce chemin. Savons-nous où nous irons ? Savons-nous où nous irons ? Joël vous conseille vraiment d'être sûr de le savoir. Je vous invite à prier. Père éternel, tu vois combien ta parole est parfois difficile et nous sommes obligés de voir que dans ta parole, un jour tu jugeras. Un jour tu jugeras toutes choses. Tu viendras rétablir l'injustice. Tu viendras rétablir, pardon, la justice au milieu de cette injustice que nous vivons. Il n'y aura plus de mal. La sainteté sera omniprésente dans ce lieu. Et cela grâce, nous pouvons aujourd'hui prétendre cela parce que ton Fils Jésus-Christ a pris nos péchés. Il a pris sur la croix, et lui qui était saint. Et maintenant, nous avons la possibilité de rentrer en ta présence. Et nous sommes obligés de nous agenouiller devant toi, devant ce plan merveilleux que tu nous as donné pour que nous puissions être un jour avec toi pour l'éternité. Dans ce lieu où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de souffrances. Vraiment, tu nous appelles encore une fois ce matin à venir à toi pour être sauvés. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes une fois encore la possibilité de venir à toi. Au nom de Jésus-Christ.